l'expérience politique et à l'expérience tout simplement de vie. Lorsque on parcourt en quelque sorte l'histoire à la fois nationale, locale, mais aussi européenne. C'est en même temps une interrogation profonde. Et à l'époque, quand ce livre a été écrit, quand j'ai écrit cette petite préface, je n'imaginais pas la polémique que nous venons de vivre, et que nous vivons encore à certains égards, entre les politiques. On a reproché au Parti Socialiste d'avoir voulu engager une confrontation, comme si nous étions en train de déclarer la volonté d'entrer en conflit avec l'Allemagne, ce qui pour moi est typiquement un résultat de ces a priori et de ces conceptions qui ne comprennent pas qu'il y a deux choses à l'œuvre à l'heure actuelle. Une logique commémorationnelle et qui permet d'écrire étape après étape, quelles que soient les majorités présentes dans l'un et l'autre pays, des étapes positives de construction de l'Union européenne. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, la France et l'Allemagne, à elles seules, forment la majorité qualifiée de l'Union européenne. Donc leur responsabilité est immense. Elles sont à la fois pays fondateurs, mais elles ont une obligation de s'entendre. Et nous sommes à la fois les plus proches les uns des autres, et en même temps, cette proximité exacerbe les différences. Et nous avons à la résoudre, soit de manière dialectique, soit, je dirais, par concession successive, les uns vis-à-vis des autres. En général, il y a toujours des concessions de chaque côté, quel que soit le moment, quelle que soit la période, c'est évident. Et donc, j'écoutais récemment un dialogue entre Jacques Delors et Helmut Schmidt, et les deux disaient, au fond, et c'est la petite phrase qui termine ma préface, la relation franco-allemande, ça doit être un choix et une pratique. Un choix, dès lors que nous avons décidé, il y a maintenant un certain temps, les jeunes générations ne sont plus aussi motivées d'ailleurs qu'à l'époque, par la paix, par la nécessité de se réconcilier. Nous avons donc une autre recherche à accomplir, qui est celle de retrouver une motivation d'aujourd'hui, à la fois pour la construction européenne et en même temps pour cette relation franco-allemande. Je la pratique au Parlement européen et ici à Strasbourg depuis longtemps, cette relation. J'ai en même temps observé ses forces et ses faiblesses. Ses forces, c'est véritablement la complémentarité entre France et Allemagne. Cette complémentarité qui fait que, avec une simultanéité de reconstruction des deux pays, nous avons les uns reconstruit un pays sur la base des références, des objectifs, des valeurs du Conseil national de la résistance. Ce qui a été pour l'Allemagne un exemple, un encouragement, pour arriver à reconstruire un État qui retrouve progressivement sa souveraineté. Elle n'était pas acquise d'avance, elle ne pouvait pas être acquise d'avance, et l'Allemagne devait accepter un certain nombre de contraintes qui étaient liées, au paiement de sa dette politique vis-à-vis de tous ceux qui ont été victimes du nazisme, mais vis-à-vis aussi, je dirais, de la communauté internationale et vis-à-vis des Français en particulier. Je pense que cette entente a facilité la transformation, l'évolution de l'Allemagne. Mais nous perdons de vue que ce pays que nous regardons comme un pays fort, qui réussit, qui a une économie florissante, qui se débrouille beaucoup mieux que nous, qui a une compétitivité, qui fait envie, un système de formation par alternance, que nous devons imiter, nous ne prenons pas toujours conscience que ce pays n'est pas encore sorti complètement de sa neutralité. Que lorsque Mme Merkel commence à accepter la vente des armes, elle est en contradiction, un ancien président de la République fédérale l'a rappelé, avec sa neutralité affirmée, je fais partie de ceux qui ont, de celles qui ont pensé qu'il était important pour la France de penser au partage de son siège au Conseil de sécurité pour travailler de manière plus proche avec l'Allemagne. Je prétends aussi que nous devons être ensemble lorsque l'Allemagne construit avec la Pologne une réconciliation qui est notre expérience. Nous devons être avec eux. Et en même temps, avec eux, lorsqu'ils traitent avec la Turquie, nous devons les inviter à venir avec nous dans la recherche d'une évolution, d'un développement de la Méditerranée. Il y a des enjeux. France et Allemagne, ce n'est pas simplement l'intimité d'un couple. C'est une responsabilité européenne à partir d'une complémentarité. Cette complémentarité est liée d'abord à un point commun. Nous avons une référence du droit écrit. Et ce droit écrit vient tout droit de nos juristes, de nos philosophes, de nos cultures respectives, mais qui ont convergé au fur et à mesure des siècles. Cette histoire, qui est en même temps un débat théologique, le débat de la réforme, le débat sur le pouvoir, sur l'organisation du pouvoir, nous amène aujourd'hui à des situations d'organisation politique, institutionnelle très différentes. Une république, un État fédéral. Une expérience de la démocratie sociale plus poussée en Allemagne, mais en même temps un universalisme des valeurs qui sont constitutionnalisées dans nos textes. Un texte fondamental en Allemagne, mais en même temps des garde-fous, la Cour constitutionnelle, le rôle du Bundestag qui, parfois, à la parlementaire que je suis, pose problème. Parce que Mme Merkel, l'actuelle chancelière, et ce serait le cas de tout autre chancelier, est obligée d'agir dans le cadre fixé par le Bundestag. Et alors que le président de la République française ne vient s'exprimer devant le Parlement français que lors d'un congrès qui rassemble le Sénat et l'Assemblée nationale, la chancelière va présenter ses positions, ses orientations qu'elle défendra dans les sommets. On voit qu'il y a à regarder ce qui, du côté allemand, dans cette situation étrange où la culture a été confiée en compétence aux Länder. J'ai été en vis-à-vis, lorsque j'étais au gouvernement chargé de la culture, j'étais consulté deux fois. La première fois, lorsque le président de la République, François Mitterrand, et que Pierre Joxe était ministre de la Défense, pensait créer ce corps d'armée franco-allemand. Pierre Joxe est venu me trouver à l'hôtel de ville, de manière confidentielle, pour me demander s'il était possible aux Alsaciens, aux Strasbourgeois, de voir des militaires allemands en tenue dans cette ville. Je croyais bien connaître les Strasbourgeois, leur attachement justement à un dépassement de la confrontation militaire historique conflictuelle. Et c'était en même temps un test. À part une porte-drapeau qui a refusé de serrer la main du premier général qui a dirigé ce corps d'armée, ça s'est très bien passé. Et c'est chaque étape, la deuxième fois où j'ai été consulté, c'est du côté allemand, où on m'a demandé comment je réagirais, ce que je pensais par rapport à l'idée d'avoir un ministre fédéral de la culture. Parce que j'avais beaucoup travaillé avec M. Teufel lorsqu'il était coordinateur des politiques culturelles des Länder. La culture avait été tellement utilisée pour la propagande, en particulier le cinéma, pour cadrer les esprits, ça reste d'ailleurs la tentation de certains, on le sait, pour les partis populistes, pour les partis extrêmes, et donc il y avait, au fond, cette défiance, cette méfiance, cette prudence, ensuite, qui a donné, au fond, la culture aux collectivités territoriales, d'ailleurs, comme l'éducation. De manière à ce qu'il y ait, au fond, une absence de risque, une absence de tentation. C'est la raison pour laquelle j'ai lu le livre de Philippe Olivier avec énormément d'intérêt. D'abord parce qu'il a commencé, et il l'ouvre, sur Wagner. Et que dans ma propre famille, j'avais une grand-mère qui était chanteuse, lyrique, wagnerienne, si je puis dire, qui connaissait tout le répertoire par cœur, mais qui n'osait pas chanter ce répertoire. Impossible. Tous les dimanches, quand j'allais goûter chez mes grands-parents, j'étais sur les genoux de la dite grand-mère, et j'avais droit à une demi-heure de Hanzi, pour que je sois complètement formaté et patriote. Et donc, il y avait là un blackout. Wagner était sorti du répertoire musical familial. Très bien. Donc, pour moi, c'était un tabou total. Donc, j'ai lu avec intérêt ce qu'en dit Philippe Olivier, à la fois du point de vue, je dirais, historique, du point de vue de ce que représente aujourd'hui cette musique, le festival de Bayreuth et la façon dont, autour de ces œuvres, il y a en même temps une construction d'un intérêt international. Il y a bien sûr beaucoup d'autres points, je ne vais pas développer ce que vous lirez certainement volontiers dans son ouvrage. Ce que j'ai apprécié, c'est que, au fond, il faut aller directement au sujet qui fâche. Je pense que lorsqu'on parle de préjugés, il faut les affronter tels qu'ils sont. Et ce que j'ai apprécié dans ce livre, c'est que, au fond, par moments, j'ai moi-même été choqué, j'ai été un peu secoué de ce que j'ai lu, et je me suis dit, c'est salutaire. Il faut, à un moment donné, se rendre compte avec combien de préjugés on vit, combien de préjugés on véhicule, et puis en même temps aussi, quelques vérités, à la fois sur nous-mêmes et sur nos amis et voisins. Et donc, moi je parle souvent de la réversibilité du regard entre français et allemand. Et au fond, ce que j'ai apprécié dans cet ouvrage, dans l'écriture de Philippe Olivier, c'est qu'il a mis un peu entre parenthèses son érudition, qui est grande, mais pour arriver aussi à avoir un texte qui est assez illustratif, assez qui roule, en quelque sorte, et qui du coup a plus d'efficacité lorsqu'il s'agit effectivement de se poser quelques questions sur ses a priori. Voilà pourquoi j'ai eu plaisir à cette lecture, voilà pourquoi aussi je pense que ce livre vient à point nommé à un moment où nous devons nous poser des questions. On a des questions, par exemple, d'homosexualité vue du côté allemand, vue du côté français. Un des points qui me pose problème par rapport à l'Allemagne, c'est le fait que nous n'arrivons toujours pas à avoir une attitude équilibrée, des décisions équilibrées lorsqu'il y a des couples qui divorcent par rapport à la garde des enfants. Des enfants nés de couples mixtes sont automatiquement gardés allemands. Il n'y a pas de partage de ce point de vue. C'est un des différents profonds qui continuent de diviser en quelque sorte, parce que, comme élu, on a bien sûr des cas nombreux qui relèvent de ces problèmes-là. Un autre point sur lequel, et Philippe Olivier l'a dit et le développe dans son ouvrage, c'est ce qui a trait à l'économie. Et en ce moment, nous avons, c'est là qu'on a, comment dire, le bras de fer, en quelque sorte, entre les uns et les autres. Il se résoudra parce qu'il y a des points communs, la taxe sur les transactions financières a été acceptée, on avance sur la lutte contre le blanchiment de l'argent, même Mme Merkel aujourd'hui est plutôt d'accord sur la mise en place d'un salaire minimum, puisque un des problèmes, c'est la disparité compétitive à l'avantage de l'Allemagne, qui pose aujourd'hui en particulier problème à l'ensemble de nos entreprises alsaciennes, et qui pose problème aux élus dans les marchés publics. Parce que lorsque vous avez recours à des salariés low cost qui sont cherchés dans les pays d'Europe centrale, qui sont embauchés par le biais d'agences qui les placent dans les entreprises qui viennent tenter de conquérir le marché, c'est très compliqué puisque nous avons quand même des critères et on ne peut pas toujours choisir des entreprises en fonction de ce critère du niveau salarial. Donc ça c'est un sujet qui fâche moi. Pourquoi ? Je termine sur ce point parce que un des facteurs de mésentente ou en tout cas de doute entre Français et Allemands vient de l'attitude que nos amis européens n'ont pas comprise du vote négatif sur le traité constitutionnel. Je pense qu'on ne mesure pas combien ce vote continue de poser problème à nos interlocuteurs, et en particulier aux Allemands. Ils l'ont perçu comme une rétraction, comme un retrait, comme une façon d'une mise à distance qui était au fond, d'une certaine manière, un doute, voire un rejet, et donc eux se sont sentis directement concernés. Et c'est logique, ce traité a beaucoup de défauts, notamment toute la partie qui était liée à un modèle économique que l'on peut contester, mais sur la partie qui était celle des droits fondamentaux, celle proprement constitutionnelle, il est évident qu'il y a de la même synthèse entre la vision politique, juridique, d'une construction de l'Europe comme état de droit, par des lois, par des valeurs, par des obligations, par des devoirs en particulier démocratiques, par rapport à l'équilibre des pouvoirs entre gouvernants et gouvernés, entre institutions européennes, par exemple. Et il y avait la synthèse avec le volet social des droits fondamentaux. Et on le sait, en Europe, il n'est pas possible de la construire uniquement sur un volet institutionnel et politique s'il n'y a pas ce qui relève de la paix sociale, c'est-à-dire de l'entente entre les peuples dans la durée, une entente durable qui tient à la solidarité, qui tient au partage des solutions lorsqu'il y a problème, qui tient aussi à une forme de mutualisation. Voilà où nous en sommes. Alors, bien sûr, à partir de là, on peut tout lire de manière négative. Moi, je pense que c'est un moment intéressant parce que, précisément, il est politique au moment où on a, en même temps, des commémorations. On a donc une obligation d'être aussi bon que ce qui a été le cas au moment du traité de l'Élysée, prospectif, engagé, et en même temps, savoir, effectivement, construire à partir de ces différences. Je suis absolument confiante parce que je vois bien quel est l'intérêt des uns et des autres. Mais pour terminer sur la question qui fâche, et qui est la question de la dette publique française et la vision allemande de la manière dont les Français ont joué avec cette dette. Lorsque le pacte de stabilité a été mis en place, c'est Balladur qui l'a proposé. C'est une règle qui a été proposée par les Français. Elle a été acceptée par les autres. Très bien, nous avons été ceux qui l'ont... L'Allemagne ne l'a pas tout de suite respectée non plus, mais la France particulièrement pas, si je puis dire. Donc, si on observe aujourd'hui l'attitude allemande qui est largement commentée, la dette, les dettes, ils les ont payées. Ils ont payé la dette de la guerre par la reconstruction. Ils ont payé la dette de l'unification. Ils ont payé leur dette financière.
Et l'euro 1853.
Et donc, ils ont, je crois, aujourd'hui, besoin que l'on reconnaisse le fait qu'ils ont été dans une situation où la reconquête de leur souveraineté, d'abord celle qui passait par la monnaie, La monnaie est un symbole de souveraineté, et cette monnaie, ils l'ont mise dans nos pots communs. Et donc, ce qui était au fond leur fierté nationale a été mise au service de l'Europe. Je crois que nous devons nous comprendre que nous avons à tenir compte de cette situation, de cette valeur, lorsque de notre côté, ce qui est la parole française officielle et politique, c'est de dire on ne peut pas tolérer tant de chômage en Europe, on doit donner un avenir à cette jeunesse. Il faut aujourd'hui arriver à avoir un projet économique et industriel en commun. On ne peut pas avoir un seul pays qui s'en tire contre tous les autres. Voilà. Le message aujourd'hui, il est entre ces contradictions-là. Mais c'est intéressant. Et la pire des choses, c'est de devoir avancer parce qu'il y a des préjugés. Et lorsque ces préjugés ont un emballement, comme on l'a vu, parce que ce qui s'est passé tout simplement au moment où on a été accusé, pour certains d'entre nous, de vouloir déclencher un conflit avec Mme Merkel et l'Allemagne, nous étions simplement dans un processus de travail sur un texte, et le texte avait déjà changé quand les premiers articles sont parus et ont commenté en quelque sorte notre position. J'ai trouvé qu'il y avait là un jeu. Je pense que ce jeu est dangereux. C'est la raison pour laquelle je recommande vivement de lire l'ouvrage de Philippe Olivier. On peut être d'accord ou pas d'accord avec lui. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il a écrit. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'au moins, il donne à réfléchir et à réagir. Et je vous souhaite bonne lecture.